Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien, au sommaire de cette émission, nous allons tout d'abord dans une minute, même moins d'une minute, avoir la joie et le privilège d'entendre Jean-Marc Lahérer, un de nos correspondants, enfin un de nos chroniqueurs fétiches. Et puis ensuite, nous vous parlerons de livres qui nous ont beaucoup intéressés ce dernier mois. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir, même si ce dont on va évoquer ensemble, la personne dont on va évoquer ensemble, on a eu de bien tristes nouvelles ce week-end.
Mais oui, pour les bien tristes nouvelles pour les lecteurs de Polar français, et puis un peu plus triste encore pour les Toulousains qui la connaissaient, avec le décès de Patricia Paris, voilà, qui était psy, qui était auteur de Polar, qui avait fait partie du premier groupe qui avait monté le festival Toulouse Polar du Sud. Et voilà, qui est décédé le week-end dernier.
Donc, on va quand même pouvoir parler de son dernier livre. Et
voilà,
ça, c'est un avantage quand les gens laissent des traces comme ça.
Et oui, voilà, il reste des traces. Alors, avec Patricia Paris que j'ai rencontré avant de la lire, j'ai pas complètement accroché à ses premiers romans, qui étaient des romans où elle essayait de venir vers le noir qu'on aime, avec des mélanges passés, présents, et un personnage de Antoine Letellier qui était un psy, comme elle, et qu'elle faisait enquêter sur des affaires qui avaient donc des racines dans le passé. Le problème, c'est que, elle écrivait, elle est trop gentille, Patricia. Et donc, elle voulait pas le cabosser, son Antoine Letellier. Et donc, il s'en sortait toujours un peu trop bien. Il était un peu trop beau, il était un peu trop...
Jean-Marc, c'est de la basse jalousie, tout ça.
Comment ?
C'est de la basse jalousie, tout ça.
C'est peut-être de la basse jalousie, mais c'est vrai que quand on est habitué au Jack Taylor, Chougrou ou Ariol, on aime bien que les héros qui en prennent un peu plein la poire, quand même. Et celui-là, il s'en sortait toujours bien. Ce qui n'est pas forcément gênant, sauf que il y avait des situations très très dures, quand même, en même temps. Et puis des faits historiques qui étaient très intéressants et très durs qui étaient évoqués.
Oui, c'était très fouillé.
Voilà, c'était on sentait qu'elle voulait aller vers le noir, mais qu'elle n'était pas assez méchante pour ça. Et puis sur son dernier roman, qui est paru dans la collection historique du masque, vous savez, celui qui est jaune avec le
petite
loup
couverture
et puis la
jaune.
Plume, cette grande collection de polars. Elle a fait paraître l'année dernière un livre qui s'appelle Sur un lit de fleurs blanches. Et là, je trouve qu'elle a trouvé son ton. Parce qu'elle cherche plus à faire du noir comme un Jack Taylor, comme un Ken Bruyne, comme ça. Non, elle revient vers finalement la littérature qui l'a enchantée toute sa vie, qui était les romanciers, les feuilletonistes, les Dumas, les gens comme ça. Et puis elle part sur du roman historique, directement. Que historique. D'habitude, j'aime pas ça, et là, j'étais enchanté, absolument enchanté. Donc, de quoi ça cause? On est à Paris, à la fin du 19e siècle. On a Clara St. James, qui est une des galantes, ce qui est une façon jolie de dire
autre
chose.
Oh oui, quand de jolis termes, ces choses-là sont dites.
Voilà, les plus connues de la capitale. Son petit problème, c'est que son richissime amant, le comte de la Paillerie, vient de passer l'arme à gauche. Alors, il lui a laissé de quoi voir venir, parce qu'elle était vraiment charmante et qu'il était finalement assez sympa. Mais, en plus de ce qu'il lui a laissé, il lui a demandé de remettre 100 000 francs, ce qui à l'époque n'était pas rien, à un jeune médecin, Victor Dupuis, qui vient juste de s'installer. Alors, elle n'a jamais entendu parler de ce Victor, elle ne sait vraiment pas qui c'est. Et elle n'a pas trop le temps de s'en préoccuper, elle se demande si elle va s'en préoccuper d'ailleurs. Et puis, quelques jours après la mort de son protecteur, son jeune groom est retrouvé saigné à mort dans un cimetière, couché sur un lit de fleurs blanches, donc.
Le blanc et le rouge, ça va bien ensemble.
Le blanc et le rouge vont très bien ensemble. Et finalement, donc, elle se dit que peut-être ce Victor-là qui lui tombe du ciel est peut-être une aide précieuse. Elle va le voir et ils décident d'enquêter ensemble. Dans le même temps, dans le journal de France, le scandale des jeunes garçons du peuple décimés, donc parce que ce groom n'est pas le seul, il va y en avoir d'autres, par quelqu'un qu'ils appellent le Seigneur, avec S-A-I.
S-A-I. Ah.
Il y a une espèce de journaliste, elle est un peu sulfureux, qui fait des articles tout aussi saignants que les exploits du seigneur en question. Et dans le même temps, il y a un feuilleton à la mode dans le même journal qui raconte des soirées sinistres courues par les notables et on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Bon, alors avec tout ça, les pauvres Clara et Victor, la réalité, bien entendu, a déplacé la fiction du journal. Alors, on lit ça avec le sourire aux lèvres et le goût dans la bouche des Dumas, des Mousquetaires, de tout ça. Parce que, voilà, c'est fabriqué comme ça. On sent que Patricia Paris s'est beaucoup amusée à retrouver ce ton-là. Il y a des extraits de journaux, des récits à suivre demain, des coups de théâtre, des révélations, des parentés impossibles, des meurtres mystérieux. Enfin, il y a tout. Tous les ingrédients sont là. Ça pourrait faire juste une espèce de machin indigeste et puis ça marche. Voilà. Ça marche parce qu'elle a du talent. Parce qu'elle s'est fait plaisir et que ça se sent. Et que du coup, on se fait plaisir avec. Et qu'on a, on a des frissons, mais c'est pas pour de vrai. On sait que c'est pas pour de vrai. Voilà. Elle cherche plus à faire peur pour de vrai. Et du coup, on accepte beaucoup plus que Clara et Victor s'en tirent sans la moindre égratignure.
De péripétie en péripétie. Et en plus, gros avantage, et les Français nous ravissent de temps en temps là-dessus, c'est pas un pavé de 700 pages.
Ah oui, ça c'est bien aussi, ça, voilà, c'est pas un pavé de 500 pages, et puis mine de rien, bon, alors voilà, on jubile, on fait semblant d'avoir peur, on s'émeut, et puis quand même, au passage, elle dit pas mal de choses, sur la condition des femmes, sur celle des enfants à ce moment-là, sur un racisme déjà, sur l'ostracisme de certaines classes sociales déjà, ou encore, et puis on apprend pas mal de choses aussi sur ce qui deviendra la médecine moderne. Il vaut mieux être malade aujourd'hui quand même, qu'à la fin du 19e siècle.
Oui. Ça n'avait pas beaucoup évolué depuis Molière, jusqu'à la fin du 19e siècle.
Les pauvres malades, quand même, ils n'étaient pas à la fête. Et puis, pour les amateurs d'histoire, donc de l'histoire avec un grand H, il y a pas mal de choses avec des faits historiques étonnants. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, il ne faut surtout pas en parler, parce que ça fait partie de la résolution du mystère, un peu. Mais on apprend énormément de choses étonnantes sur l'histoire de France, sur des bouts d'histoire de France qu'on n'apprend pas ni au collège, ni au lycée, alors que les étudiants en histoire connaissent sûrement, mais que le lecteur... Lambda ne connaît pas forcément. Et voilà, donc finalement, on se fait plaisir, on retrouve un peu le goût de certaines choses qu'on a aimées il y a bien longtemps, avec ce qu'il faut quand même d'un peu plus noir pour nous faire plaisir aujourd'hui, et en plus on finit moins bête, donc
ça fait quand même
dommage
beaucoup
de s'en passer.
Ouais, ça fait beaucoup, beaucoup d'avantages pour... Voilà. Un livre, donc.
Voilà, et puis en plus, ça n'oblige pas à faire de la muscu, il pèse pas 3 kilos, il ne fait pas 800 pages serré, et c'est très bien, c'est historique, et pourtant, il n'y a pas de code, ni de Vinci, ni de n'importe qui, donc c'est, voilà, il y a tout pour plaire, ce livre.
Et puis, quel plus bel hommage peut-on rendre à un écrivain, ou une personne, que d'acheter son dernier livre pour découvrir, et bon, ça fait perdurer un petit peu quand même quelques-unes de ses idées, de ses pensées, et c'est quand même une jolie idée, ça.
Alors, ce livre avait eu le prix du roman d'aventure, que j'ai découvert quand j'ai su qu'il l'a vu, parce que je ne savais pas que ça existait, mais voilà, il a eu ce prix-là. Après tout... C'est toujours bien.
Ah, les romans d'aventure, on sait qu'on aime ça, nous.
Aussi. Oui, voilà, on aime ça. Et bon, après, la tristesse, c'est qu'on espérait bien qu'on reverrait Clara et Victor, et puis non.
Et voilà. Oui, parce que ça aurait pu faire une belle série.
Voilà.
Elle n'avait pas un texte qui était déjà prêt ou...
Alors, d'après ce que j'ai lu dans la presse, elle était en train de reprendre son personnage de psy pour le prochain texte.
Donc, non,
et il n'est pas terminé. Donc, je pense qu'il n'y aura plus de texte. Il n'y en aura plus de nouveau.
Bon, on va reciter, donc, c'est dans la collection du Masque, on va reciter le titre de ce roman.
Sur un lit de fleurs blanches.
Et voilà, ça a été écrit par Patricia Paris, et ça restera toujours.
Voilà.
Voilà, une pensée pour elle, et puis aussi pour toute sa famille. Merci Jean-Marc, à très bientôt.
Merci à
et
vous.
Et pour d'autres enthousiasmes de lecture.
Voilà.
Passez un bon mois de juin, j'espère, ensoleillé.
Voilà, et bonne fin d'émission.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
Et on va écouter donc un petit peu de musique. Un groupe de blues libanais, c'est pas si courant que ça, c'est un duo qui s'appelle les Wanton Bishops, en plus, les Bishops. C'est plutôt roots comme musique, et ils sont deux, guitare, voix, chant. Et le disque, comme le morceau que l'on va écouter, s'appelle Sleep with the Lights On, c'est-à-dire dormir la lumière allumée. Et quand on les écoute, non, c'est pas vraiment obligé.
Voilà, un groupe à découvrir apparemment. Hein.
Du blues de Beyrouth, en fait.
Oui, Bishops, ça veut dire les évêques.
Les évêques, c'est ça, oui.
Mais Wanton, c'est un endroit peut-être.
Ça doit être leur nom,
hein.
Je ne sais pas, oui.
Ou alors c'est peut-être leur nom. Hein,
j'ai comme pas eu d'infos sur leur nom.
Comme les Blues Brothers, ils s'appellent Monsieur Blues.
C'est non, ça, Monsieur Blues. Elwood Blues et Jack Blues, effectivement.
Voilà, donc, sans transition, voilà, je crois que c'est ce qu'on dit d'habitude. Sans transition, je vais vous parler d'un roman qui passe entièrement en Afrique du Sud, au Cap de nos jours, Cape Town. Ce roman s'appelle La Dette, c'est d'un nouveau venu dans le polar français, c'est sa première traduction. Il s'appelle Mike Nichols, c'est donc paru chez Ombre Noire il y a quelques mois, enfin un ou deux mois. Et c'est évidemment un roman traduit par Estelle Roudet. Donc comme je l'ai dit, on est au Cap de nos jours. Les deux personnages principaux, enfin deux des personnages principaux s'appellent Mace et, alors excusez-moi, là je sais pas, Pylon, je sais pas trop, Pylon, voilà. Ils s'occupent tous les deux d'une société de sécurité. En gros, ils accompagnent de riches étrangers dans cette ville d'Afrique du Sud à l'insécurité malheureusement légendaire. Au début de ce roman, ils dérogent à leur clientèle habituelle, de riches américains en général, pour protéger Matthew, qui est un fils de truand, et tenancier de boîte de nuit. Boîte de nuit où on se livre allègrement au trafic de drogue. Ainsi, ça permet d'apprendre le passé sulfureux des deux personnages, l'époque où ils étaient trafiquants d'armes et où, semble-t-il, ils étaient quand même, pourris jusqu'à la moelle. Protéger Matthew, au passage d'ailleurs mec complètement givré, c'est donc pour régler une dette, d'où le titre du roman, qui est le début d'une trilogie, je vous le redirai à la fin. Donc c'est régler une dette, mais c'est malheureusement va se retrouver sur la route d'une jeune femme, Shemina February, qui est une avocate splendide, dans la plastique plutôt étonnante, à part un gant sur une main. C'est une avocate...
Comme Mickey.
Oui, mais Mickey, il en a deux. Donc c'est une avocate qui, sous le couvert de son métier respectable, semble s'occuper de clients beaucoup moins respectables. Mais aussi, et ça on va l'apprendre petit à petit, ainsi que le personnage de Mace, poursuivre cet individu, Mace, d'une haine farouche. Tout va s'emballer très vite, et la vie paisible de Mace et Pylon va se retrouver dans un maelstrom de violences inouïes impliquant leur famille, leurs amis, mettant en péril toute l'existence qu'ils ont essayé de construire depuis quelques années. Comme je le disais au début, on le sait, la vie n'est pas rose à Cape Town, j'allais dire depuis la fin de l'apartheid, mais c'était pas vraiment rose non plus pendant l'apartheid.
Non, c'était plutôt noir et blanc.
Oui, voilà. Et évidemment, les vieilles histoires sont loin d'être oubliées et encore moins absoutes. C'est d'ailleurs pour ça que ce premier roman traduit de Mike Nichols, c'est le premier d'une trilogie qui s'appelle Vengeance. Parce que les haines sont tenaces. Se retrouvent dans cette ville des bourreaux et leurs victimes, des assassins, évidemment des trafiquants de tout poil, et qui vivent maintenant en toute impunité. Sans compter que, en dehors de l'apartheid et de ce passé, l'Afrique du Sud, c'est quand même un endroit idéal pour se livrer au trafic de tout genre, la drogue bien sûr, mais aussi les armes et évidemment les diamants. Bref, l'endroit idéal pour y situer un polar aux multiples rebondissements, rythmé à coups de règlements de compte et crimes en tout genre. C'est l'endroit idéal pour situer un roman, sauf que Mike Nichols sait de quoi il parle, il habite là-bas, depuis, il est originaire de là-bas. Donc, c'est avec beaucoup de véracité qu'il nous décrit cet endroit plein de violence. Et pourtant, on dirait quand même aussi presque un roman d'aventure, on en parlait avec Jean-Marc il n'y a pas si longtemps, avec en toile de fond cette ville tentaculaire, blessée à mort, dirais-je, par la haine qui règne dans la plupart des quartiers, y compris les quartiers les plus riches, où les maisons et apparts sont hyper protégés. Il n'y a pas une personne qui n'a pas trois grilles, je ne sais pas combien d'alarmes. C'est impressionnant pour espérer être tranquille. Donc je disais roman d'aventure, mais c'est un roman noir aussi, par les réminiscences du passé que font ressurgir Shemina d'un côté, mais aussi la très très belle Isabella, plus mafiosa, on dit bien ça, hein,
oui, oui.
Plus mafiosa, tu meurs. En toile de fond, omniprésent, mais que n'atteigne jamais aucun des personnages, la rédemption. Et la rédemption, c'est quand même le thème majeur du roman noir. Et c'est vraiment omniprésent dans ce livre, puisque il faut avant tout payer ses dettes. Mais évidemment, payer ses dettes, ça a un coût de chair, de sang. Mais peut-on jamais complètement payer ses dettes? Et peut-on jamais complètement se venger? Je vous conseille donc d'acheter ce roman. Donc c'est paru, ça je l'ai peut-être pas dû, l'éditeur
si,
chez Ombre Noire,
oui.
Les éditions Ombre Noire. Donc ce roman s'appelle La Dette de
premier,
Mike Nichols.
Premier d'une trilogie. Donc.
Voilà, qui s'intitule Vengeance d'ailleurs. Et donc c'est traduit par Estelle Roudet.
Et Cape Town, si je m'abuse, en français c'est Le Cap. Hein, c'est
le
bien
Cap,
ça.
C'est ça. J'ai employé deux fois et Le Cap et Cape Town. Et voilà, à tout à l'heure pour la deuxième partie.